tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous et bonne année encore à tous.
Et aujourd'hui, le texte de ce dimanche nous parle du baptême de Jésus. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe.
Donc Ésaïe au chapitre 55, les versets 1 à 11. Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les populations. Voici, une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras, et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi du fait que le Seigneur est ton Dieu. Oui, à cause du Saint-Esprit, du Saint d'Israël, qui t'a donné sa splendeur. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée.
Et le récit du baptême de Jésus, nous allons maintenant l'écouter dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 7 à 11. Jean le Baptiste proclamait: « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix: tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir.
Et la dernière lecture du jour se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 9. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime Dieu qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est qu'ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois convergent dans l'unique témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car tel est le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage en faveur de son Fils.
precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, Lord, I'm weak, I am worn. Oh yes, through the storm, through the night, lead me on, Lord, to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. I sit alone, thinking of my mother at home. I can see her in that old armchair.
Nous voudrions tout d'abord faire quelques remarques sur ce texte de l'Évangile. Sur le fait, premièrement, que ce baptême se passe à un endroit identifié qui est très précis, c'est la rivière du Jourdain. Et c'est cette même rivière que Dieu avait miraculeusement ouverte après la traversée du désert au sortir d'Égypte pour que le peuple de Dieu, mené par Josué, puisse entrer dans la terre promise. Nous trouvons ce récit dans le livre de Josué au chapitre 3. Dieu avait promis à Abraham qu'il donnerait cette terre à ses descendants. Ainsi, cette rivière rappelle l'accomplissement de cette promesse. L'accomplissement de la promesse fait partie des preuves de l'alliance divine par laquelle Dieu montre puissamment sa fidélité envers son peuple. C'est aussi à cet endroit que le prophète Élie avait rappelé le peuple de Dieu à revenir à lui.
La deuxième remarque est que Jésus se soumet au baptême. Il est indiqué pour accomplir toute justice. Jean semblait préparer par ce baptême le peuple à la venue du Messie. Jésus ne s'y soumet pas par repentance car il est sans péché, mais plutôt pour s'identifier à son peuple dans la continuité de l'histoire du peuple élu. On peut considérer le baptême de Jésus tel un coup d'envoi pour débuter sa mission parmi les hommes. Jésus est oint du Saint-Esprit pour accomplir son œuvre. Luc indique d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, versets 37 et 38, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. »
Une troisième remarque, l'Esprit de Dieu descend tel une colombe. Jean avait été averti qu'il reconnaîtrait le Christ par ce signe. La forme d'une colombe descendant était le signe qui permettrait à Jean de reconnaître la présence de l'Esprit sur Jésus, authentifiant le choix divin de Jésus comme Messie. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 32, nous pouvons lire « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans son Saint-Esprit. »
Vous connaissez sûrement la croix huguenote. La colombe, placée sous la croix, symbolise le Saint-Esprit. L'importance que Calvin attachait au Saint-Esprit a sans doute contribué au fait que les protestants, d'une manière générale, ont mis au cœur de leur foi l'action et la puissance du Saint-Esprit.
Revenons à Jésus. Quand il parle du Saint-Esprit à Nicodème, il s'exprime en ces termes, dans le troisième chapitre de l'Évangile de Jean, les versets 3 à 5. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
Jésus explique ici à Nicodème qu'une nouvelle naissance spirituelle, cette fois, est indispensable au salut. Il la décrit comme invisible à l'œil nu, comme le vent, invisible aussi, mais dont les effets sont palpables et réels. Nicodème semble très surpris, car cette proposition est contraire à sa compréhension des choses. Son parti pharisien prenait ses connaissances des Écritures et son obéissance à la loi, mais Jésus dit que ces choses ne comptent en rien pour être sauvées. D'ailleurs, on sait que le peuple de Dieu s'était avéré à maintes reprises dans l'histoire incapable d'obéir aux commandements de la loi écrite sur les tablettes.
Dans sa miséricorde, Dieu suscite le prophète Ézéchiel pour annoncer qu'il allait, par grâce, mettre son esprit au-dedans de son peuple et écrire sa loi sur leur cœur. Comprenons donc que la réception individuelle de l'esprit, un acte divin, mystérieux, ineffable, puissant, est indispensable pour le salut de quiconque. L'apôtre Pierre nous dit que par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est mise telle une semence incorruptible au plus profond de notre cœur et de notre âme.
I've been praying a long time. Heaven God, are you here?
Le ciel qui s'ouvre au-dessus de vous, une année qui s'ouvre devant nous. Et voici, nos cœurs eux-mêmes s'élargissent pour vous présenter des vœux. En notre nom, au nom de l'Église, élargissons des vœux de la part de Dieu. Lorsqu'on parle de vœux en pensant à Dieu, en se plaçant sur le terrain religieux, on ne pense pas généralement aux vœux que Dieu présente. On pense plutôt à ceux que nous formulons et spontanément, ils prennent les ailes de la prière. Je me suis demandé quelle forme pouvaient prendre les vœux que Dieu adresse aux hommes à travers la Bible et quelle forme, de ce fait, pouvaient prendre ceux que nous adressons en son nom. Devant le texte du jour, comme devant les difficultés de l'heure, il m'est apparu qu'ils prenaient, eux, les ailes de la colombe. L'oiseau qui, dans toutes les religions, est considéré comme sacré et qui, dans la révélation biblique, est souvent messager de l'Esprit.
Voyez là cette colombe. dans les premières pages du livre, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Le ciel s'est ouvert, mais ici, c'est le déluge qui est venu sur la terre. Les eaux se retirant, Noé lâche la colombe, et voici, vers le soir, elle revient, portant dans son bec une feuille d'olivier, messagère d'esprit parce que messagère d'espoir. Le vœu de Dieu comme le nôtre, qu'il n'y ait plus de déluge, de cataclysme, de malédiction. Je ne maudirai plus, dit Dieu, la terre à cause de l'homme et de la méchanceté du cœur de l'homme. Notre vœu, comme celui de Dieu, c'est que les hommes ne se maudissent plus entre eux, que les ailes ne soient plus meurtrières, qu'il y ait pour tous les submergés des épreuves, de la maladie, de la solitude, la cessation de tout ce qui est hostile, et que nous gardions vivante la vision de l'espoir. Voici, sur le soir, elle vint, portant dans son bec une feuille d'olivier. Certains, qui comprennent bien ce langage, pensent qu'il appelle un développement et qu'il faudrait maintenant actualiser l'espérance.
Mais je pense aussi aux autres, à ceux qui restent étrangers, indifférents, hostiles à la présentation de vœux, qui, situés au plan religieux, n'en demeurent pas moins à leurs yeux des vœux stériles. Pourquoi cette irritation ? Par ingratitude ? La reconnaissance, il est vrai, ne nous est pas tellement naturelle. Ou par scepticisme ? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent espérer, ils ne se situent pas après le déluge, ils y sont encore en plein. Leur dire bonne année de la part du Seigneur, c'est les provoquer à transformer leurs vœux en cris de révolte.
Que va devenir et que va alors dire le prophète ? Porte-parole d'un Dieu dont l'amour est à ce point voilé, mystérieux, lointain, parfois pensons-nous absent peut-être ? Ce qu'il dit, l'homme de Dieu, dans sa propre souffrance ou dans celle qu'il porte par solidarité humaine, il l'exprime dans une prière qui est moins un vœu qu'une plainte. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. J'irais au désert. Je trouverais du repos. Déserter, fuir, jeter par-dessus bord ses responsabilités trop lourdes et ses devoirs trop exigeants. Si les portes de ma cage venaient à s'ouvrir, si les barreaux de mon cadre professionnel venaient à céder, si plus rien ne me retenait, ni les impératifs de ma conscience, ni le respect d'autrui, je m'en irais. L'évasion prend des formes aussi diverses que les motifs qui l'inspirent.
Il y a ceux qui voudraient fuir parce qu'ils sont désespérés et ceux qui le feraient pour n'avoir pas à supporter le désespoir des autres. Il y a des accablés au cœur si lourd qu'ils envisagent avec le prophète Élie la fuite définitive. Éternel, reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Des jeunes qui, en condamnant idéologiquement les erreurs du passé, se jugent pratiquement incapables de faire mieux et autrement, et risquent de prendre n'importe quelle paire d'ailes pour trouver un repos aussi artificiel que la recherche d'un idéal inaccessible. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, symbole de l'esprit. L'évasion sur ces ailes-là pourrait être la fuite dans une mystique ou un idéalisme religieux, ou une religion autre même. Partir sur les ailes de l'esprit pour n'avoir personne à consoler, rien à convoiter. Trouver le repos dans quelque désert où je n'aurai plus à déposer au porte-manteau de la confession des péchés le vieux vêtement de ma vie, et te trouver, toi seul, toi qui ne passes jamais.
Oh, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. If I'd only serve the Lord, yes, I believe He will be my water, He'll be my bread in a starving land. sometimes my burden gets so heavy. Sometimes I feel like I can't go on. Sometimes my wings get dark. But someday, Lord, I'm going to the heavenly home. Oh, he said he would be my mother. Hey, he would be my father too.
Hypothèse, rêve. De toute façon, l'homme ne peut partir avec les ailes de la colombe. Et s'il le faisait, il ne pourrait être disciple du Christ, celui que nous rencontrons dans l'Évangile. Car voici, l'Esprit vint sur lui comme une colombe. Ce n'est pas la colombe qui part de la terre, nous emportant de je ne sais quel monde artificiel, c'est la colombe qui vient et qui descend sur l'homme. Autrement dit, la religion, quand Jésus est là, n'est pas une évasion par l'Esprit, mais plutôt une invasion de l'Esprit. Et cela n'est ni un vœu, ni une proclamation, c'est un fait. L'Esprit vint sur lui. L'Esprit fut sur lui. Habité par l'Esprit, il a inséré cet Esprit. Le christianisme, c'est l'intrusion de l'Esprit. Voilà ce dont nous avons besoin et ce qui rend l'Évangile toujours actuel.
L'Évangile, c'est l'intrusion de l'Esprit. Des idées, des vœux, des promesses, des doctrines, il en faut, on en trouvera toujours. Mais une inspiration, un souffle qui donne le courage de vivre et la force d'aimer, où les trouvera-t-on? C'est là le propre du christianisme, de n'être ni une morale, ni un enseignement, mais une inspiration.
L'Esprit fut sur lui. L'inspiration est personnelle, respectueuse de l'identité de chacun. Les cieux s'ouvrent, l'inspiration est universelle. Elle est offerte à tous ceux qui s'ouvrent à elle. Difficilement communicable. On peut donner à un enfant un enseignement, une méthode de travail, lui apprendre l'art de vivre bien, mais lui insuffler une énergie que naturellement il n'a pas, ça c'est le secret et le pouvoir de l'Esprit.
Jésus a formulé des vœux et des souhaits. Ils ont pris à certains moments les ailes de la prière, le Notre Père ou la prière sacerdotale. Jésus a parlé sur le mode impératif, prêché aux foules ou dialogué dans le secret avec ses disciples. Jésus a lancé des invitations ou formulé des promesses. Il ne s'est, dans son engagement, moqué de personne. Lui, à qui l'Esprit n'a pas été donné avec mesure, a connu, comme nous, la souffrance de ne pas pouvoir mieux le transmettre et la joie que nous ne connaissons pas comme lui d'en attester sans mentir la présence et la force. C'est lui qui, après sa mort, dans un triomphe de vie, enverra l'Esprit sur ses disciples.
Ce n'est ni en notre nom, ni au nom d'une Église que nous vous disons que cette nouvelle année sera une année de grâce. C'est Jésus qui vient nous le dire, aujourd'hui comme au premier jour. Il avait en lui l'Esprit quand, étant entré dans la synagogue, ayant déroulé le livre, il lut ce qui était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Voici, l'Esprit vint sur lui comme une colombe. Son Esprit vient sur chacun de nous. Son Esprit et son amour sont les deux ailes qui nous permettent d'avoir, dans notre combat, la paix dans la souffrance, la sérénité dans le deuil, la victoire dans l'épreuve et dans la mort, l'éternité de la vie.
Ne dites pas que cette espérance est trop lourde à porter, quand c'est elle qui nous permet à nous et qui permettra à notre humanité de voler, sans nous évader, plus haut que toutes les détresses de la terre. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et que le Saint-Esprit vous assiste chaque jour de cette nouvelle année.
Au revoir et à bientôt.
Jesus.